C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
C'était un rendez-vous politique très attendu par les sportifs et sportives avant les vacances d'été du gouvernement, la fameuse réunion de chantier autour d'Emmanuel Macron pour discuter Jeux Olympiques de Paris 2024. Que les amateurs et amatrices de sport se rassurent, le projet semble bien parti. Alors si 2024 nous donnera l'occasion de profiter des Jeux Olympiques dans leur version moderne, pour la 33e fois, c'est l'opportunité pour nos historiens favoris, Thierry Lafleur, Alexandre Robelin et Julien Marel, de revenir sur les premiers Jeux Olympiques de l'histoire. Histoire dans l'histoire avec un grand I. Bonjour messieurs.
Bonjour.
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 L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, chers historiens, on place communément les premiers Jeux Olympiques de l'histoire en 776 avant Jésus-Christ à Olympie. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, les premiers Jeux Olympiques se sont déroulés en effet à Olympie en 776.
Julien Marel.
Pardon, j'ai du mal avec les chiffres.
Non, mais pas de souci, on a été un peu dur. Hein,
Donc, les premiers Jeux Olympiques se sont déroulés en
776. Julien Marel.
Pardon, mais vraiment, les chiffres, c'est pas mon dada.
On est un peu dur.
C'est pas ma tasse de thé.
C'est pas grave.
776 avant Jésus-Christ à Olympie. Et ces Jeux Olympiques ont la particularité qu'au début, ils ne contenaient que des sports aquatiques.
Que des sports aquatiques.
Oui, tout à fait. Alors c'est l'ancêtre du kayak, c'est l'ancêtre de la natation synchronisée, c'est l'ancêtre qui d'un water polo. Et tous ces sports avaient été développés quelques années auparavant. On est en Grèce, un pays où il fait très très chaud. Et donc, forcément, les sports de prédilection des habitants de ce pays, ce sont les sports qui servent à se rafraîchir, et donc très logiquement les sports aquatiques.
Tout à fait, parce que faut replacer dans son contexte, on n'est même pas 200 ans après l'invention de la baignade. C'est-à-dire que les gens, l'humanité découvre qu'elle peut se baigner, qu'elle peut nager environ moins 900 avant Jésus-Christ. Donc la baignade, voilà, on commence tout juste finalement à se sentir bien dans l'eau. Alors que justement, avant c'était inconcevable de se baigner, d'aller dans l'eau, parce que l'homme est un animal terrestre.
En fait. On en avait peur, évidemment.
Vous vous êtes déjà fait toucher la jambe par un poisson quand vous vous baignez ? C'est terrifiant.
C'est effrayant.
C'est terrifiant.
Et là, du coup, on commence vraiment à se sentir bien dans l'eau. Et notamment, voilà, autour d'Olympie, on commence vraiment à prendre du plaisir et à développer des jeux et donc des sports.
D'accord, donc c'est un peu pour fêter cette nouvelle activité que la Grèce décide de faire des Jeux Olympiques, si je comprends bien.
Oui, et puis c'est aussi c'est une célébration, évidemment. Hein. Il y a tout de suite des cérémonies autour des premiers Jeux Olympiques. Même déjà à l'époque, hein, il y avait des cérémonies de la flamme olympique, etc., qu'on venait éteindre avec de l'eau à l'époque. En fait, la flamme était allumée et le début de la cérémonie, c'était qu'on versait un verre d'eau dessus pour l'éteindre. Donc c'est une célébration, mais c'est aussi une compétition. La Grèce est un pays très compétitif. Hein. De tout temps, la Grèce a voulu, a été dans la compétition, dans le fait de se mesurer les uns les autres. Et donc c'est aussi pour mesurer qui est le meilleur, qui est le meilleur au plongeon, qui est le meilleur nageur, qui est le meilleur au water polo, qui peut marquer le plus de buts sous l'eau.
Se mesurer et pour se rafraîchir.
Oui,
comme
voilà.
Vous le disiez plus tôt.
C'est
évidemment, Méliodas IV, qui était l'empereur de Grèce, a décidé de mettre en place ses premiers Jeux Olympiques, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, qui s'appelaient, le nom m'échappe, qui s'appelaient.
Les Jeux du Plouf.
Les Jeux du Plouf, voilà, les Jeux du Plouf. Méliodas IV décide de créer les Jeux du Plouf pour rafraîchir son peuple, puisque grosse phase de canicule en 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux du Plouf arrivent à un moment où on doit rafraîchir le peuple, et donc on leur propose de jouer, vu qu'ils sont très joueurs, ces Grecs, à des Jeux aquatiques, pour se rafraîchir.
Et d'ailleurs, la devise des premiers Jeux Olympiques, si aujourd'hui c'est l'important n'est pas de gagner mais de participer, à l'époque c'était rafraîchir, célébrer et compétir.
Et n'oubliez pas la nuque.
Et n'oubliez pas la nuque.
De vous passer un peu d'eau.
C'était très très long comme slogan, donc il a été changé dès l'année suivante.
Mais en grec c'est moins long.
C'est vrai.
En grec c'est moins long.
Ça raccourcit tout le grec. Hein.
C'est fou ça.
C'est fou. Hein.
Ouais, c'est l'alphabet, je pense.
Ah, peut-être.
Donc on est sur une vraie, enfin, on est sur une triple dimension, on va dire. Il y a l'activité sportive, il y a le fait de célébrer quelque chose qui n'existait pas avant, et puis donc il y a cette dimension sociale, enfin du gouvernement de l'époque qui décide de faire ça par sécurité sanitaire, on va dire. Qui participe à ces jeux? Est-ce que c'est tout le peuple ou est-ce qu'on a, voilà, parce qu'on connaît qu'en fait, il faut toujours revenir dans l'histoire sur vraiment qui fait les événements, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes qu'aujourd'hui.
Alors voilà, là on va toucher du coup au sujet qui fait débat, c'est qu'en effet en -776, ce sont donc les Jeux du Plouf qui deviendront plus tard bien entendu les Jeux Olympiques puisque ça se déroule à Olympie. Ce ne sont pas encore donc les Jeux Olympiques qui arriveront 4 ans plus tard et qui s'appelleront vraiment les Jeux Olympiques où là les nations finalement, les autres nations voisines de la Grèce seront invitées à compétir. Nous sommes vraiment là dans les Jeux du Plouf avec seulement les habitants d'Olympie. Donc voilà, c'est l'empereur qui met ça en place pour contrer cette phase de canicule et pour mettre à profit tous ces jeux, tous ces sports qui se développent dans l'eau. Mais voilà, donc en -776, on a seulement les habitants d'Olympie et ce n'est que 4 ans plus tard, pour les premiers vrais Jeux Olympiques, si on peut les appeler comme ça, où les nations voisines seront invitées.
On a seulement les habitants d'Olympie, mais on a surtout tous les habitants d'Olympie qui participent, et dont Meliodas IV lui-même. Et ça, c'est quand même formidable. Hein. Il y avait plusieurs dizaines de milliers d'habitants à Olympie à l'époque. Et chacun a tenu à participer, ce n'était pas obligatoire. Chacun a tenu à participer. Bon, alors, il faut dire qu'il faisait très chaud. Hein. En moyenne, 46 degrés par jour en ce mois d'août 776 avant Jésus-Christ.
Ils n'ont pas participé à toutes les épreuves.
Non, bien sûr que non. Chacun a son épreuve de prédilection.
Voilà, et puis l'épreuve reine réunissait quand même tous les habitants de la ville, la bataille d'eau.
Oui.
Tout le monde avait son petit pistolet à eau et ses ballons gonflés. Mmh. Et puis on envoyait ça chez les voisins, quoi.
Et alors il y a aussi, ouais, ça c'était vraiment l'épreuve phare qui s'est déroulée le dernier jour pour rafraîchir tout le monde et remportée par Meliodas IV lui-même d'ailleurs. Et alors il y a aussi beaucoup de sports qui ont été pratiqués, qui ont été abandonnés par la suite et d'autres qu'on retrouve aujourd'hui encore. Je pense notamment au toboggan compétitif. Les toboggans dans les piscines, en fait, ça vient de là. C'est un sport qui a été inventé spécialement pour l'événement, des toboggans creusés dans la roche. Et le but était de faire une figure en sortie du toboggan. Donc beaucoup de créativité aussi, hein. C'est un peu compétitif mais aussi très créatif.
Et quel était l'impact du coup pour quelqu'un qui participait et qui se retrouvait à gagner cette édition? C'est le premier Jeux Olympiques, donc
les premiers Jeux du Plouf étaient extrêmement, enfin c'est pour ça que, enfin comme l'a dit Julien Marel, c'est Meliodas IV qui les a remportés, parce qu'en fait Meliodas IV, dans le but de rafraîchir son peuple, avait vraiment l'intention de faire participer tout le monde. Tout le monde à Olympie devait participer, mais il ne pouvait pas obliger les gens à participer. Ça aurait demandé beaucoup trop de logistique, de mobilisation de la garde, etc. Donc, Meliodas IV avait promis pour ses premiers Jeux du Plouf, son titre d'empereur, tout simplement.
C'est pour ça, on en revient à cette épreuve gagnée, l'épreuve reine, la bataille d'eau, le dernier jour, par Meliodas IV, épreuve gagnée par Meliodas IV. Bon, est-ce que Meliodas IV a triché?
Alors, vous parliez tout à l'heure d'un sujet qui fait débat. Voilà, ça c'est typiquement le sujet qui fait débat autour de ces premiers Jeux Olympiques. Il semblerait que Meliodas IV ait triché. Alors, il a remporté pas moins de 80% des épreuves de la compétition. Voilà, donc...
Alors, justement, sur cette partie qui fait débat, il y a eu plusieurs films qui ont été faits sur... Voilà, sur le contre-jeu du Plouf, on va en écouter un extrait et vous pourrez commenter dessus juste après.
Meliodas, c'est fini.
Quoi ?
Vous êtes cerné, nous allons vous mouiller.
Vous pensez vraiment que vous allez m'avoir ?
Nous sommes quatre et vous êtes tout seul, Meliodas. Nous allons devenir empereur à votre place.
Mais qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que c'est facile d'être empereur ?
C'est fini, Meliodas. Ton règne de terreur a pris fin. J'ai mon pistolet à eau et je vais te tirer sur la jambe.
Mais arrêtez, réfléchissez. Vous pensez que c'est si simple d'être empereur? Si je n'avais pas été là pour vous rafraîchir, avec cette canicule, qu'est-ce que vous auriez fait, hein?
Mais alors pourquoi promettre ton titre? Pourquoi nous appâter de la sorte?
Parce que vous ne réfléchissez pas par vous-même. J'ai dû vous promettre quelque chose. Et vous êtes venu. Regardez-vous. Regardez-vous.
Fistius! Ne le laisse pas t'avoir.
Vous êtes rafraîchi grâce à moi.
Entends le mensonge dans ses paroles, Fistius.
Fistius, comment tu te sens?
Je me sens frais, Meliodas.
Vicious, nous devons lui tirer dessus. Nous devons devenir empereur.
Attends.
À la place de l'empereur.
Et avant, comment tu te sentais, Vicious?
Avant, j'avais chaud. Mais ce n'est pas là la question.
Réfléchis.
La question, c'est...
Vicious.
Attendez. Nous ne sommes pas seuls. Meliodas, qu'avez-vous fait?
Garde.
Meliodas, non, vous n'avez pas le droit de faire
je
intervenir vos gardes.
Lâchez vos bombes à eau.
Vous aviez promis de... Non! Non!
Voilà, donc là, on a un extrait d'un film, justement, qui relate le potentiel, on va dire, ce que tout l'empereur avait mis en place derrière pour gagner cette fameuse épreuve. Ça reste controversé, aujourd'hui, chez les historiens. Pourquoi?
Oui, parce que oui, cet extrait de film, voilà, c'est romancé, c'est blockbuster, donc voilà, ça, ça marque ce truc de l'empereur qui trahit.
Moi, enfin, je ne l'ai pas vu.
Voilà.
Ah, ah oui. Vous ne l'avez pas vu?
Non, c'est quoi?
Oh, pff, c'est...
C'est blockbuster, c'est... Hein, c'est... Ouais, on a essayé d'égaler le potentiel de Gladiator, ça a fait un moment où on faisait beaucoup de films, justement,
oui, oui,
sur...
voilà. Ça casse pas trois patins et canards. Hein.
Et puis en plus, voilà, on se base, on présente le film comme historique, et on met cette scène-là où justement Meliodas aurait triché. Faut savoir que Meliodas se débrouillait très bien à la bataille d'eau. Voilà, c'était pas une surprise qu'il remporte cette édition des Jeux du Poufle.
Mais alors moi qui n'ai jamais vu le film, il y a quand même des éléments qui sont intéressants. Fissus, c'était un vrai personnage qui a existé
réellement,
qui fait partie de l'histoire. Mm-hmm. La première personne à avoir remporté l'épreuve de plongeon triple vrille.
Bah, il a fini numéro 2 au classement global.
Au classement global, tout à fait.
La personne qui est face à Meliodas, qu'on entend dans le film, voilà, c'était la personne qui arrivait deuxième au jeu du plouf.
Qui a touché du bout du doigt le fait de devenir empereur. Alors, est-ce que Meliodas 4 se serait laissé faire et lui aurait donné le pouvoir? Ça,
c'est vrai qu'il a perdu très tôt dans les écrits le relatent, hein, il a perdu très tôt dans l'épreuve reine, la bataille d'eau.
Et oui.
Voilà, donc la bataille d'eau, vraiment au centre d'une controverse politique de l'époque. On s'arrête sur ça et on se retrouve juste après la pause musicale.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains.
When all of my dreams are a heartbeat away.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. C'était One Moment in Time de Whitney Houston, chanté pour les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. On se quittait sur Medias 4, qui gagne. C'est la grande bataille d'eau de la première édition des Jeux Olympiques qui s'appelle en fait Jeux du Plouf. La suite, c'est 4 ans plus tard, une deuxième édition. Pourquoi ?
Oui, donc la deuxième édition, en effet, 4 ans plus tard, comme je le disais tout à l'heure, les autres nations sont invitées. Pourquoi, en effet ? Pourquoi on réitère les Jeux Olympiques ? Pourquoi ça ne s'appelle pas les Jeux du Plouf ? Ça restera une édition totalement aquatique. Donc ça, pendant des années, ça a été, les Jeux Olympiques ont seulement été aquatiques. Et en fait, il s'est trouvé que Meliodas IV, dans ces Jeux Olympiques, a vu le potentiel, finalement, de son peuple et de l'aisance de l'homme dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu ce potentiel-là pour la première fois. Il y avait des gens qui s'étaient vraiment entraînés beaucoup pour être les plus rapides, pour être les plus agiles dans l'eau. Et finalement, ce qui a été vu dans cette première édition, c'est le potentiel martial de ces Jeux Olympiques. Donc en effet, Meliodas IV, lorsqu'il fait d'autres Jeux Olympiques, c'est pour finalement se comparer à ses nations voisines et pour un peu montrer sa force de frappe, pour montrer un peu ses finalement guerriers marins.
Les guerriers marins qu'on appelait les hoplites. Alors les hoplites, c'est un nom qui est connu dans l'histoire. Hein. C'était des fantassins grecs, mais à l'époque, c'était vraiment des guerriers aquatiques et plutôt une espèce d'unité spéciale en fait, qui pouvait envahir des pays en arrivant par la mer, en nageant le glaive entre les dents et en arrivant en Macédoine du Nord, en Croatie, en Serbie pour étendre le territoire grec. Et donc Meliodas IV, par cette seconde édition, veut montrer, voilà, regardez, vous regardez mes athlètes, potentiellement ils vont vous envahir, faites attention à vous.
Donc là, on a quelque chose qui a démarré vraiment comme un épisode pour contrer la chaleur, et qui devient un vrai instrument géopolitique pour la Grèce de l'époque et pour Olympie, notamment. Du coup, quel a été l'impact pour Meliodas IV après ? Est-ce qu'il a pu gagner des territoires ou conquérir des terres grâce à ça ?
Ça s'est retourné contre lui. En fait, il faut savoir que Meliodas IV organise les seconds Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques, premiers sous ce nom, en invitant les pays voisins, Macédoine du Nord, l'Albanie, la Croatie, enfin toute cette côte. Mais il ne s'attend pas à ce que ces autres peuples soient aussi performants, soient aussi forts dans les sports que Meliodas IV pensait maîtriser. Et donc, il perd les seconds Jeux Olympiques.
On le rappelle, hein, ça fait 200 ans qu'on a découvert la baignade. Et les autres peuples et les pays alentours n'ont pas attendu les Jeux Olympiques pour se mettre les pieds dans l'eau.
Voilà, ce qui devait être une démonstration de force, finalement, de Meliodas IV, on arrive finalement à des Jeux Olympiques qui sont très disputés, très serrés, et qui en résultent avec la défaite donc, de la Grèce à Olympie même.
Et alors, il faut se souvenir de l'enjeu des Jeux Olympiques. Hein, le gagnant gagne le titre d'empereur.
Et ça c'est assez cocasse. Parce que Meliodas IV, on pense qu'il l'a oublié pour cette deuxième édition. Il l'avait promis dans la première, il décide de renommer les Jeux du Plouf en Jeux Olympiques, il invite les pays voisins, mais on pense qu'il avait complètement oublié quel était le titre à la clé. Et au moment donc où c'est la Croatie qui gagne cette deuxième édition, au moment où la Croatie gagne les Jeux Olympiques, l'empereur croate, tous les noms m'échappent, Émile vient vers Meliodas IV et lui demande sa couronne.
Comment réagit Meliodas IV, empereur d'Olympie ?
Alors, c'est pas tant Meliodas qui réagit, c'est-à-dire que Meliodas est, de ce qu'on sait, était assez abasourdi, parce que comme l'a dit Monsieur Roblin, il l'avait potentiellement oublié, moi je pense aussi qu'il l'avait oublié, mais c'est plus les autres pays, finalement, qui réagissent et qui sont contre, bien sûr, à ce que la Croatie annexe la Grèce, d'autant plus que les pays sont assez éloignés. Donc ça voudrait dire des guerres de territoire de plus en plus intenses dans les prochaines années.
Ça scande dans l'amphithéâtre à ce moment-là.
Oui.
Ça scande dans l'amphithéâtre. Les Croates scandent « lâche ta couronne, Meliodas », tandis que les autres pays scandent « il avait oublié, ça va ». Et donc, effectivement, il y a une partie de l'amphithéâtre qui souhaite que Meliodas lâche sa couronne, une partie de l'amphithéâtre qui souhaitent que bon bah on conserve les forces politiques en place dans l'état actuel. Et finalement, là, c'est le retour en jeu de Fissius.
C'est ça. Et à ce moment-là, justement, Fissius se place au centre de l'arène, l'arène aquatique d'Olympie. Donc, il arrive en crawlant au milieu de l'arène. Et
les très belles statues de Fissius qui crawlent, d'ailleurs. Fissius crawlant au milieu de l'arène, qui est vraiment un moment de l'histoire de Grèce qui est d'une élégance et d'une beauté rare, quoi. C'est un homme qui crawle pour son peuple.
Donc voilà, il crawle jusqu'au milieu de l'arène, et il faut savoir que donc c'était le peuple croate qui vraiment scandait le Méliodas lâche ta couronne. Et en fait, le peuple croate, il a aimé ces jeux, il a participé, etc. Et c'est là que Fissius propose donc l'idée qui révolutionnaire et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, que les prochains Jeux olympiques se passent en Croatie et non à Olympie.
Ok, donc là, en fait, ça change. Là où le gagnant devenait empereur, maintenant, c'est le gagnant accueille les prochains Jeux chez lui, si
tout
je comprends
fait.
Bien.
Et donc, ça amène beaucoup de choses. Ça amène en effet des richesses, un brassage culturel, une période rafraîchissante pour le peuple, puisque rappelons-le, ça se déroule en plein cœur de l'été, et c'est des pays méditerranéens qui ont besoin, finalement, de cette dose de fraîcheur. Donc c'est assez révolutionnaire, l'idée est très bien perçue par le peuple croate, et finalement elle sera réitérée tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques.
Alors, Émile, lui, le roi Émile, le roi des Croates, lui n'est pas d'accord avec Fissius. Lui, il veut la couronne de Méliodas IV, il est venu pour ça, mais c'est là où Fissius a été très intelligent, c'est qu'il parle au peuple au moment où il
voilà,
dit ça.
Voilà, il s'adresse à la reine finalement.
Oui, voilà, il dit, regardez comme nous sommes bien ici à Olympie, vous pouvez l'être chez vous si vous acceptez de ne pas prendre notre couronne et de rapporter chez vous plutôt les Jeux Olympiques.
Voilà, et c'est là-dessus que, c'est pour ça que finalement on n'y croit pas trop à cette théorie que Méliodas aurait triché aux prochains Jeux Olympiques, sinon pourquoi Fissius aurait fait ça? Pourquoi Fissius aurait pris la défense de Méliodas?
Mais pour moi il a pris la défense de son peuple.
Pour moi il a pris la défense de son peuple.
Plus que de Méliodas.
Peut-être.
Intéressant. Donc là, on a vraiment les débuts des Jeux Olympiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quel a été l'impact, d'un point de vue historique, de ces Jeux Olympiques jusqu'à maintenant?
Il s'est passé beaucoup de choses aux Jeux Olympiques. Hein, parce que là, on est quand même, on en est à un point en moins 780.
772.
Non, les premiers, c'était en moins 776.
Oui, mais on est avant Jésus-Christ, Julien.
Oui, bah du coup, 4, ça fait...
Non, non, ça va dans l'autre sens.
Julien Marel, s'il vous plaît.
Bon, attends, vous m'expliquerez après l'émission, parce que je ne vous suis pas.
On vous expliquera après.
On est en moins 772.
D'accord, bon, en moins 772 pour les deuxièmes Jeux Olympiques. On est encore sur une édition aquatique. Maintenant, on décide que ça change de pays chaque année, mais c'est les vainqueurs. Bon, bah voilà, après, il y a eu encore beaucoup de changements. Donc, déjà à l'époque, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de richesses, qui amène du monde, qui fait un brassage économique important, et c'est là principale raison pour laquelle les Jeux Olympiques ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Après, bon, voilà, on a ajouté d'autres sports que les sports aquatiques. Il y a eu des sports qui ont été ajoutés puis qui ont ensuite disparu. Je pense au jeu du cochon au Moyen-Âge,
et oui.
Qui a été un très très grand succès, qui était pendant un moment l'épreuve phare des Jeux Olympiques et puis qui a complètement disparu de la circulation. Je pense, après, on a décidé que ce ne serait plus le gagnant qui accueillait un pays, mais que ce serait décidé par un comité. Et puis, voilà, il y a le CIO, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
C'est vrai qu'en termes de, si on parle d'impact, nous, en tant qu'historiens, ce qui est très intéressant avec ces Jeux Olympiques, c'est de voir l'évolution des sports qui disparaissent et qui apparaissent au fur et à mesure des âges,
notamment
jusqu'à arriver aujourd'hui.
La première édition, donc on est en 1212, première édition des Jeux Olympiques qui se déroulent en France. Donc c'est la première fois que les Jeux Olympiques se déroulent en France, et on se retrouve donc, ça se passe essentiellement en Bretagne, hein, parce que la Bretagne est quand même la place forte en 1212, et on se retrouve à devoir supprimer les sports aquatiques, tout simplement parce que l'eau est beaucoup trop froide. Et on a des athlètes qui ne veulent pas participer aux Jeux aquatiques dans une eau beaucoup trop froide, et c'est là où il faut redoubler d'ingéniosité et trouver des nouveaux sports à exploiter.
Très bien, alors les Jeux Olympiques de Bretagne, ce sera le mot de la fin et un petit peut-être suspense pour un prochain épisode. C'était l'histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré aux premiers Jeux Olympiques de l'histoire à Olympie. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, sur le compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.